RFI 8h30, à Paris 7h30, en temps universel. Le journal Afrique avec Édouard Dupénois.
Et les jeux qui sont faits au Gabon, la période de dépôt des dossiers est terminée en vue de l'élection présidentielle d'avril. Qui l'a fait? Qui s'est abstenu? On ouvre ce journal par une première revue des effectifs. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le grand flou des fonctionnaires dans les villes occupées par le M23. Comment les payer alors que les banques sont fermées? Kinshasa et les gouvernorats provinciaux se creusent la tête. Olivier Monodji reste en garde à vue au moins jusqu'à demain, date de sa comparution devant le procureur. Le journaliste tchadien, notamment correspondant de RFI, a pu être auditionné dans les formes hier. 8 mois que Fony Kemenge et Biloba ont été kidnappés dans la capitale guinéenne. 8 mois que les proches de ces deux cadres du FNDC n'ont pas la moindre nouvelle. Nous sommes au Mali, où la transition annonce un léger assouplissement pour les permis miniers des entreprises étrangères. Et en Côte d'Ivoire, pour un documentaire hommage à Bernard Dadier, pilier de la littérature ivoirienne, mort il y a tout juste 6 ans. Il y a donc une vingtaine de candidats potentiels pour l'élection présidentielle gabonaise du 12 avril. Les postulants avaient jusqu'à hier 18h pour déposer leurs dossiers, qui doivent maintenant être passés au peigne fin avant qu'on ne connaisse la liste définitive. Plusieurs grandes figures de la scène politique sont déjà sur les rangs. Le leader syndical Jean-Rémi Yama, Pierre Claver Maganga Moussavou ou encore Alain-Claude Billy Binzé. Mais aussi donc, comme annoncé en début de semaine, Magali Lagrange, le tombeur de l'ex-président Ali Bongo.
Comme il l'avait annoncé en début de semaine, Brice Clotaire Oligui Nguema a bien déposé son dossier de candidature hier. Le président de la transition a précisé s'être mis en disponibilité de l'armée, condition fixée par le code électoral gabonais pour qu'un militaire puisse se porter candidat. Parmi les dossiers déposés figurent aussi ceux de l'ancien premier ministre Alain-Claude Billy Binzé, du syndicaliste Jean-Rémi Yama, figure de la société civile gabonaise très critique du régime d'Ali Bongo, sous lequel il a été emprisonné à 2 reprises, et de Pierre Claver Maganga Moussavou, le fondateur du PSD, qui a déjà brigué la présidence à 4 reprises. Il est toutefois âgé de 72 ans. Les textes stipulent que les candidats doivent avoir entre 35 et 70 ans. Albert Ondoosa, qui s'était présenté face à Ali Bongo à la présidentielle de 2023, ne figure pas parmi les candidats cette fois-ci. Les dossiers doivent maintenant être étudiés avant la publication de la liste des candidats retenus. Plusieurs d'entre eux demandent un petit délai supplémentaire pour pouvoir obtenir les documents manquants, notamment la quittance du Trésor prouvant que la caution de 30 millions de francs CFA a bien été déposée.
Magali Lagrange, la campagne pour cette élection s'ouvre le 29 mars prochain. En République démocratique du Congo, la plongée dans l'inconnu pour les agents de la fonction publique. Dans le nord et dans le sud Kivu, cela fait 40 jours que Goma est tombé sous le contrôle de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Et pratiquement 3 semaines pour Bukavu. Les banques restent fermées non seulement dans ces deux capitales provinciales mais aussi dans de nombreuses autres localités. Comment donc assurer le salaire des fonctionnaires? Kinshasa réfléchit à plusieurs options, dont le paiement via téléphone mobile, tandis que le groupe armé, qui prétend toujours mettre en place une administration parallèle, n'a rien annoncé sur le sujet. Le défi est d'autant plus complexe, Patient Ligodi, que tous les fonctionnaires ne sont pas payés de la même manière.
Les fonctionnaires des provinces sont payés grâce aux recettes locales. Mais aujourd'hui, ces revenus échappent à l'administration officielle. Le gouvernement provincial du Sud Kivu s'est délocalisé à Uvira et celui du Nord Kivu à Beni suite à l'offensive de l'AFC M23. Depuis ces villes, ils tentent de fonctionner mais n'ont pas la main sur l'ensemble des recettes, ce qui complique encore plus la situation. Rien que pour le Sud Kivu, la masse salariale des fonctionnaires provinciaux atteint environ 900 000 dollars par mois. À cela s'ajoute un autre défi, tous les fonctionnaires ne relèvent pas de la gestion provinciale. Certains dépendent directement de Kinshasa où des solutions sont à l'étude. Comment leur envoyer de l'argent sans risquer de financer indirectement l'AFC M23 au ministère de la fonction publique? L'une des pistes envisagées est d'abord une mise en disponibilité d'office, ce qui signifie que l'absence au travail ne conduira pas à des sanctions administratives. Une autre problématique concerne les agents qui ont fui leur zone d'affectation, certains ayant même trouvé refuge dans des pays voisins. À Kinshasa, on réfléchit à un paiement via la téléphonie mobile, mais cette option nécessite des préalables logistiques avant d'être mise en œuvre. De son côté, l'AFC M23 affirme travailler sur la question des salaires, mais aucune décision officielle n'a été annoncé.
La République démocratique du Congo, où le bilan de l'attaque contre le village de Tambi dans le territoire de Massissi s'élève à au moins 43 morts, selon plusieurs sources locales. Il y a 4 jours, des miliciens Wazalendo alliés aux militaires congolais auraient pris pour cible ces villageois en les accusant d'avoir collaboré avec le M23. Une garde à vue prolongée, au moins jusqu'à demain matin pour Olivier Monodji. Le journaliste tchadien, directeur de publication du journal Le Pays et par ailleurs correspondant de RFI, a été arrêté en milieu de semaine. Il est gardé depuis dans les locaux de la police judiciaire de N'Djamena. Finalement, il a pu être entendu hier pendant 4 heures par 3 officiers de cette police judiciaire. Son avocat évoque un contexte plus serein que la veille où l'audition avait tourné court. Malgré tout, Maître Alata Amos déplore de ne toujours pas savoir ce qui est reproché précisément à son client, ainsi que le fait que sa garde à vue soit prolongée.
Il n'y a que le procureur de la République seul qui peut nous expliquer, parce que là, il a des conseils, nous sommes ses conseils, il représente suffisamment de garanties, de représentation, mais malheureusement, on le garde quand même dans les locaux de la police judiciaire. Ni la police judiciaire n'a été capable de nous dire, nous lui reprochons telle infraction. Il n'y a que le procureur de la République qui peut nous dire pourquoi il a arrêté. Et nous l'attendons de pied ferme le lundi pour savoir qu'est-ce qu'il reproche à notre client. C'est aberrant de savoir que dans ce siècle-là, on arrête encore les journalistes. Et c'est vraiment d'un autre âge. Et c'est pourquoi nous disons qu'il est impératif qu'on le relâche purement et simplement.
Maître Alata Amos, avocat d'Olivier Monodji, notre confrère qui doit être déféré donc demain matin devant le procureur du tribunal de grande instance. J'ajoute que l'UJT exprime à son tour son indignation, l'Union des journalistes tchadiens. Elle parle d'une arrestation arbitraire ainsi que d'une grave atteinte à la liberté de la presse.
RFI.
Il est 7h bientôt 37 à Conakry. Il y a 8 mois, tout juste aujourd'hui, 2 figures de la société civile de Guinée étaient kidnappées. 8 mois que les proches de Fonny Kemenge et Mamadou Biloba sont sans nouvelles de ces 2 cadres du Front National pour la Défense de la Constitution. Ce mouvement qui avait joué un rôle clé dans la chute d'Alpha Condé. Les 2 hommes ont été enlevés à domicile, à Conakry. Le premier ministre de transition, Baouri, assurait cette semaine encore que les enquêtes se poursuivaient. Mais le mouvement n'en croit pas un mot. Écoutez ce qu'en dit Ibrahima Diallo, responsable des opérations pour le FNDC.
8 mois durant, ni l'épouse de Foniké, ni l'épouse de Bilo, encore moins les témoins directs de leur enlèvement, n'ont été contactés par la justice guinéenne pour être entendus. Donc cela suppose qu'il n'y a jamais eu d'enquête ouverte, comme l'affirment les autorités. Je pense que c'était juste une fuite en avant pour servir l'opinion internationale en affirmant qu'il y a une enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête ouverte. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous, la coordination nationale du FNDC, n'avons jamais encouragé les familles des victimes à porter plainte devant les juridictions nationales, parce que convaincus au regard du statut des présumés coupables, la justice ne fera absolument rien. L'affaire sera classée sans suite, malheureusement. C'est pourquoi nous comptons maintenant sur la justice internationale, puisque la disparition forcée est reconnue en droit international comme étant un crime contre l'humanité. Nous espérons que la justice sera rendue à l'international, parce que c'est un crime qui n'est pas frappé des prescriptions.
Ibrahima Diallo, des opérations du FNDC avec Pierre Firsion. Les yeux doux de John Dramani Mahama à Assimi Goïta. Le président ghanéen était au Mali hier pour tenter une fois encore de rabibocher les 3 frondeurs de l'AES avec la CDAO, communauté ouest-africaine. John Dramani Mahama poursuit sa mission repêchage aujourd'hui à Niamey. Le détail à lire sur RFI.fr. Le Mali encore, où Bamako va desserrer un peu l'étau autour des permis miniers. Leur délivrance est suspendue depuis 3 ans. Elle ne va pas entièrement reprendre, mais d'ici une semaine, les entreprises étrangères devraient tout de même retrouver un peu de latitude, Agnès Kakoumor.
Au Mali, la délivrance des titres miniers a été suspendue en 2022. L'objectif du pays étant clairement celui d'augmenter les redevances. En 2023, un nouveau code minier a été promulgué. Il comprend notamment des exigences accrues en matière de contenu local, telles qu'une participation maximale de 30% de l'État dans les projets miniers, ainsi qu'une participation obligatoire de 5% des entreprises locales à ces projets. Désormais, Désormais donc, l'administration minière recevra les demandes de renouvellement des permis, les demandes de passage de la recherche à l'exploitation, ainsi que les demandes de transfert des permis d'exploitation. En revanche, l'attribution de nouveaux permis reste suspendue. Il faut dire que le pays n'a reçu aucun gros investissement depuis 10 ans. Face à ces nouvelles contraintes, se pose la question de l'appétit des sociétés minières pour de futurs projets.
Agnieszka Kumor, le combat de Bernard Dadier porté à l'écran. On en vient à l'anniversaire que commémore aujourd'hui la Côte d'Ivoire et plus généralement d'ailleurs les amoureux des belles lettres. Cela fait 6 ans aujourd'hui que l'auteur du Patron de New York est mort et l'Institut Goethe d'Abidjan projette ce soir un documentaire pour retracer sa vie, son œuvre et son combat, pour continuer de transmettre aussi les valeurs que l'écrivain a portées tout au long de ses ouvrages. Abdulaziz Diallo.
À travers des images d'archives et des témoignages, le documentaire de 78 minutes revient sur la vie et l'héritage de Bernard Dadier, écrivain, poète et homme politique. Un hommage rendu à celui qui, par ses mots, a dénoncé l'oppression coloniale et chanté l'identité africaine. Franck Herman Ikra est l'un des fondateurs de la bibliothèque Archives Bernard Bellin Dadier, qui coproduit le film. Il explique l'objectif de cette création.
Le principal intérêt de ce film est pédagogique. Il vient combler une faille, un déficit de culture historique sur une période pourtant récente, celle des années 1949, constitutive du roman national ivoirien. Il s'agit d'une invitation à nous réapproprier une histoire dont nous sommes à différents niveaux les continuateurs.
De Climbier à Patron de New York, en passant par la Ronde des Jours, Bernard Dadier a marqué la littérature ivoirienne et africaine. Ses œuvres, toujours étudiées dans les écoles, continuent d'influencer de nombreux écrivains, à l'image d'Anzata Ouattara, auteur de 19 ouvrages.
Bernard Dadier est pour tout écrivain ivoirien une figure emblématique. C'est vraiment le pionnier, l'icône de la littérature ivoirienne et au-delà africaine. Il a bercé notre enfance de par ses œuvres.
Le documentaire Bernard Dadier, un homme de liberté, projeté ce soir à l'Institut Goethe d'Abidjan, sera précédé d'une présentation sur la dimension poétique des libertés dans l'œuvre de Dadier. Abdulaziz Diallo, Abidjan. RFI.
Abidjan, où il est 7h42, RFI matin. La suite et la fin, c'est avec Marion Cazanov.
C'était le journal d'Edouard Dupénoit.